Vous avez de la chance, c'est jour de visite aujourd'hui. Monsieur Lebrun, que voici, vous accompagnera.
La grande vadrouille.
Le film comique en France a enfin trouvé ses lettres de noblesse. Nous avons à la fois touché une très très large audience. La jeune critique et la critique classique ont été extrêmement favorables au film.
Au milieu des années 1960, Gérard Houry, qu'on vient d'entendre, c'est un peu le roi du monde. Après le Corgnaud, il tourne La Grande Vadrouille. Il en parle comme de film comique. Néanmoins, dans ses mémoires d'éléphant, il observe qu'au moins le second est sorti avec le label Art et Essai. C'est un film comique, mais aussi une comédie. Un film art et essai avec des moyens financiers colossaux. Le réalisateur a raison de dire que s'y sont retrouvés le public, le grand public et la critique, laquelle avait une autre importance qu'aujourd'hui. Les cahiers du cinéma ont certes marqué de l'hostilité et Jean-Louis Bory des réserves. Mais voici ce qu'écrivait Henri Chapier. Henri Chapier tenait alors la rubrique cinéma dans le journal Combat, dont le slogan était « Combat mène chaque jour le combat de l'intelligence française ». Chapier écrivait donc « De Funès et Bourvil ne m'ont jamais fait mourir de rire, et bien là, comme dans le Corgnaud, ce n'est jamais gras et vulgaire, tous retrouvent un plaisir naïf et innocent. » 50 années ont passé depuis la première, à Asnières, avant le Gaumont Ambassade à Paris. Le film sort de nouveau, cet été en salle, puis en Blu-ray DVD, dans une version restaurée, qui lui redonne notamment toute sa sonorité et l'éclat de sa photographie. C'est un long-seller dont l'écho n'a jamais faibli, et qui montre que le rire peut ne pas être circonscrit à une époque, et aussi qu'il peut toucher des pays très différents. Nombre des réfugiés du Proche-Orient qui parviennent ici peuvent citer La Grande Vadrouille. Avant même de connaître la France, ils connaissaient le film. Il est vrai que De Funès et Bourvil ressemblent bien à ce que nous sommes toujours.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Danielle Thompson, bonjour.
Bonjour.
Fille de Gérard Houry, on peut dire que dans le précédent millénaire, vous étiez seulement scénariste et que maintenant, depuis 1999, vous êtes réalisatrice et toujours scénariste. Danielle Thompson, votre dernier film est consacré à Cézanne et Émile Zola, Cézanne et moi. En 1966, vous étiez une toute jeune mère de famille, à peine revenue d'Amérique.
Oui, j'étais même pas revenue d'Amérique d'ailleurs. Je revenais pour travailler sur les films avec mon père. Je travaillais avec lui, il m'a imposé, comme on peut le dire, sur l'équipe de scénaristes de La Grande Vadrouille, l'équipe étant Marcel Julien et lui-même, puis après les frères Tabé, puisque c'était l'époque où il y avait aussi des dialoguistes un petit peu séparés de l'équipe de scénaristes.
Et les deux aînés, là, Julien et votre père, se posaient la question, est-ce qu'on peut faire un film drôle sur une époque que votre père avait traversée dans la difficulté? S'il ne s'était pas enfui, Dieu sait ce qu'il serait advenu de lui.
Il se posait la question sans cesse, parce que, et justement, moi non. Donc j'avais beaucoup moins de tabous que, et c'était intéressant par rapport au travail de liberté sur cette époque qui était vraiment pas une période de liberté du tout. Et donc ça a été très très passionnant d'abord de les voir eux-mêmes, de les écouter parler de cette époque. Enfin, mon père avait été obligé de, ayant perdu son travail à la Comédie Française et à la radio, puisque en tant que juif il ne pouvait plus travailler pour le gouvernement français, il n'y avait pas de possibilité de gagner sa vie. Donc ils sont partis avec ma mère, ma grand-mère et sa grand-mère en zone libre. Mon père avait trouvé du travail à Marseille puis à Nice dans des théâtres. Et puis je suis née à Monaco à l'époque. Et ils ont réussi miraculeusement à trouver un travail à la Comédie de Genève. Et on a vécu donc, alors là du coup j'étais bébé les deux dernières années de la guerre en Suisse.
Un film drôle sur une époque tragique, un film très riche en moyens financiers sur une époque fauchée. Vous pouviez vous permettre à peu près toutes les facéties, tous les caprices aussi dans le scénario, parce que ça pouvait suivre.
Oui, alors une époque fauchée, ça veut rien dire, parce qu'évidemment, au cinéma, une époque, c'est une époque, donc c'est un film d'époque. Donc il faut reconstituer tout, et il faut, bien sûr, les choses ont beaucoup changé en 20 ans, et tout ça, ça coûte cher.
La scène de départ, c'est une scène aérienne. Vous pouvez vous permettre d'écrire, vous, Julien, Gérard Houry, Danielle Thompson, l'avion tombe et perd ses pièces les unes après les autres. Alors vous imaginez comment on fait perdre à un avion ses pièces les unes après les autres. L'avion qui a été préalablement visé, bien sûr, par la DCA allemande.
Ils se sont réveillés, ça commence à barder. Il y a une mitrailleuse, juste devant le quartier général allemand.
Là, Fritz, là! Non, là! Plus haut! Plus haut!
Tire très imprécis.
Là, j'imagine la tête de nos auditeurs puristes qui savent
et la mienne.
leur la grande mienne. Vadrouille par cœur. Bah, faut mettre un peu de grosse pagaille quand même au début de cette émission. C'est un sosie, ce film. C'est un film de 67. Allez, une contrefaçon.
Je n'en ai jamais entendu parler.
De Funès, il avait une cinquantaine d'années. Vous l'avez bien connu, Daniel Thompson. Il vous parlait de ses années de vache maigre, très très longues. Je crois qu'il a mis 18 ans à installer l'eau chaude dans son deux pièces de la rue de Maubeuge.
Oui, je sais qu'il a failli, j'ai surtout par mon père, parce que c'était surtout, bien sûr, une relation très proche avec mon père. C'est que, en effet, les vaches maigres ont duré longtemps et il jouait du piano dans les piano bars. Il allait d'un lieu à l'autre, comme font les musiciens fauchés. Et puis après, il a joué beaucoup d'innombrables petits rôles. Il a eu toute une vie au cours de laquelle il a croisé mon père, qui lui aussi, après la guerre justement, au retour en France,
n'a pas retrouvé sa position d'avant-guerre.
Il n'a pas retrouvé du tout cette espèce de moment glorieux du conservatoire où il était avec ses amis François Perrier, Bernard Blier. Et là, il a, je crois que ça se passe en 1947, il a joué dans une pièce qui s'appelait Les Vivants de Henri Troyat, dans lequel il a rencontré De Funès, qui avait aussi un rôle. Un petit rôle. Et puis ils se sont recroisés dans un autre film historique qui s'appelait Du Guesclin. Et donc une amitié, enfin en tout cas quelque chose s'est passé.
C'est en 1954 que se croisent, se rencontrent, travaillent ensemble au cinéma pour la première fois De Funès et Bourvil, dont le parcours a été moins lent parce qu'il est connu dès les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une histoire de pêcheur, poisson d'avril.
C'est toi, voyons.
Il y a un monsieur derrière toi.
Je m'en fous. Hop là. Ça mord ?
Hein ?
Ça mord ?
Je viens d'arriver.
Ah. Et vous n'avez encore rien pris ?
Ah, patience, patience. Hop.
Patience.
Arrête, il y a une turmulot là.
Dites, dites, sans indiscrétion, vous pêchez quoi ?
Hein, le brochet, en principe.
Ah. Dites, si vous permettez que je m'immisce, je tâterai là-bas, près de la souche. Vous savez, le brochet en général, c'est là.
Ah ?
Ah, c'est là.
Vous croyez ?
Ah, oh, moi je tâterai.
Ah, vous êtes bien aimable.
Moi je tâterai.
Pardon.
Allons.
C'est un film de Gilles Grangier. On le reconnaît, De Funès.
Ah, complètement. Bah,
surtout
oui.
Au caquettement. Au
oui,
caquettement,
on connaît très bien leur voix tous les deux, oui, bien sûr. Je ne connaissais pas du tout cet extrait. Alors, mon père, en revanche, avait rencontré Bourvil sur un film d'après Le Passe-Muraille de Marcel Aimé. Donc, ces deux personnages étaient des gens. Voilà, ils pouvaient décrocher le téléphone et les appeler.
Ils sont à cachet égal dans La Grande Vadrouille. Vous allez me dire, Daniel Thompson, que vous ne connaissez pas tous les ressorts de la production.
Oui, je crois. Je crois que c'était pas le cas dans Le Corneau. Ouais. Et donc, je crois qu'au moment de La Grande Vadrouille, ça a été évidemment à égalité.
Alors, si on revient à votre scénario, un des aviateurs tombe sur le zoo de Vincennes, un autre sur l'échafaudage de Bourvil, qui est peintre en bâtiment, et le troisième à l'Opéra de Paris, sur le toit de l'Opéra de Paris. Alors, quand vous écrivez le scénario, vous pensez que c'est possible de tourner à l'Opéra, vous ?
Ah, c'est mon père, pour lequel les obstacles n'existaient pas, qui avait en plus, je dois dire, d'abord beaucoup de charme et une grande puissance de persuasion, et qui se disait, j'irai voir Malraux, qui était donc ministre de la Culture à l'époque, et qu'il ne connaissait pas, mais qui est devenu après un ami.
Et notre chemin, ça a été Émile Biasini, qui était plus facile cette
alors,
année-là
voilà, Émile
à
Biasini,
voir que Malraux.
Et qui est aussi devenu un de ses grands amis. Il avait quelque chose de formidable, mon père, c'est que il n'utilisait pas les intermédiaires. Il prenait son téléphone, il appelait les gens lui-même. Et il avait cette espèce d'enthousiasme et
Et peut-être un peu d'habileté et de ruse, parce qu'il avait quand même commandé la musique du film, quand ce n'était pas Berlioz, à Georges Auric, administrateur général de l'opéra à l'époque.
Voilà. Alors, s'il se trouve que c'était un merveilleux musicien, sinon je pense que ça ne serait même pas venu à l'idée. Mais peut-être que ça n'était pas complètement innocent de se dire qu'il mettait quelques cartes de son côté.
Bon, il n'y a pas d'innocence et un peu de malice de notre part à faire précéder l'extrait que chacun de nos auditeurs reconnaîtra, les séquences où les Allemands vont pourchasser un des aviateurs anglais réfugiés à l'opéra où répète Stanislas Lefort, le chef d'orchestre, par un moment de Radio Paris, la radio collaborationniste. C'était Jean Toscane, le speaker.
Radio Paris ment.
Nous avons pris place dans une avant-scène. L'opéra, malgré ses ors, son apparat, sa munificence, l'opéra dont la voûte retentira dans quelques instants sous les accents d'une musique céleste, eh bien, l'opéra m'apparaît presque comme une arène. Mais je ne suis pas ici pour vous faire part des sentiments d'un homme qui fut le témoin, jour par jour, de la tâche déclarée par certains écrasante, entreprise par notre radio nationale.
Qui a fait ça?
C'est moi, maître.
Et où vous croyez-vous?
À l'opéra, maître.
C'est amusant. Sortez! Mephisto, Marguerite, Faust, sortez! Je ne veux personne dans la salle lorsque je travaille! Je ne veux que Berlioz et moi! Voilà! Bello! Un peu moins de bruit, s'il vous plaît!
Excusez-nous, monsieur Lefort!
Le 17.
Mesdames, messieurs, plus sonore les cuivres, plus étincelant,
l'éclair avant la foudre! Pour rater.
Hast du Ruhe? Alles durchsuchen! Lumière! Tout le monde reste ici! Sortie verboten! Défendu! Un parachutiste anglais est entré ici dans l'opéra. Verboten donner assistance, sous peine de la mort.
Harvard. Stanislas Lefort.
La capelle maître, sur Paris, nous avons abattu bombardier britannique. Deux aviateurs prisonniers. Un, ici, se cache. Je suis fâché que je dois arrêter la musique.
Alors, vous êtes une autorité maintenant, Daniel Thompson, en matière de grande vadrouille. Même si vous étiez une toute jeune scénariste à l'époque, dites-nous... Il y a de l'improvisation, vous qui avez rédigé avec Julien et votre père le scénario. Il y a de l'improvisation?
Il y a de l'interprétation. Elle renferme en elle-même une part d'improvisation. Non, c'est écrit comme ça. Mais bien entendu, l'apport du comédien, c'est que tout à coup, il y a quelque chose qui dépasse largement ce qui est écrit. C'est beaucoup mieux.
Vous ne saviez pas, votre père en particulier, que... Le rythme des deux comédiens, quelle que fût leur amitié, était différent. Quand Bourvil avançait dans son rôle, où il était excellent au début, il se détériorait à mesure que De Funès se perfectionnait.
C'est-à-dire que pour le Corneau, le principe du film, c'était qu'ils n'étaient pas ensemble, puisqu'ils étaient dans des voitures séparées qui se suivaient, et en fait, ils ont très peu de scènes ensemble, seulement une au début et l'autre à la fin. Donc il y avait eu peu de travail entre eux, et justement l'une des choses à laquelle on était très très attentif pour l'écriture de La Grande Vadrouille, c'est de faire le contraire, c'est-à-dire qu'ils soient tout le temps ensemble et que ces deux personnages qui n'ont rien en commun soient obligés d'être collés l'un à l'autre pendant ce fameux voyage, puisque c'est un road movie.
On va y venir, pour l'instant on est encore à l'opéra.
Et donc c'est vrai que très vite il s'est rendu compte en effet que Bourvil était tout de suite en grande possession de ses moyens et ça partait d'un coup. Et Louis, c'était quelqu'un qui avait besoin de se chauffer et qui, même s'il était très bien dès le début, Tout à coup, le grain de folie se mettait en route et il obtenait des choses bien meilleures après plusieurs prises. Alors, c'était un petit peu compliqué parce que ça obligeait évidemment l'autre à refaire des prises alors qu'il les avait formidablement bien réussies tout de suite. Sur le tournage, c'était compliqué.
Ça prouve une chose, c'est que Bourvil est excellent de suite. Et puis, il a un répertoire quand même beaucoup plus large que de Funès. Il a une amplitude extraordinaire dans tous les genres. J'aimerais que vous nous disiez du bien de Bourvil.
Bourvil, c'est un personnage tellement complet, tellement parce que bon, c'est un homme de musical au départ, qui a chanté ses chansons naïves et qui est quelqu'un, un homme de scène. De Funès aussi, bien sûr, a fait beaucoup de choses aussi sur scène. Mais bon, c'est un chanteur, c'est un comique, c'est un acteur, et puis c'est un tragédien.
Un tragédien.
Oui, dans certains films, je pense au Miroir de face, je pense bien sûr au film de Melville, c'est quelqu'un qui a quelque chose d'incroyablement bouleversant en lui, qui sait jouer vraiment dans un climat de douceur, de tendresse, avec beaucoup de nuances. Et je pense d'ailleurs que De Funès en était très capable, il ne voulait pas, et mon père a obtenu plusieurs fois dans des films, notamment dans Rabbi Jacob, et d'ailleurs, petit moment dans La Grande Vadrouille aussi, quelques moments d'émotion où il est formidable, mais c'était pas ce qu'il aimait faire, donc il ne le faisait pas.
On peut vivre sans richesse, presque sans le sou. Des seigneurs et des princesses, il n'y en a plus beaucoup. Mais vivre sans tendresse, on ne le pourrait pas. Non, 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 on ne le pourrait pas. On peut vivre sans la gloire qui ne prouve rien, être inconnu dans l'histoire et s'en trouver bien. Mais vivre sans tendresse, il n'en est pas question. Non, 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 il n'en est pas question.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
La Grande Vadrouille, 50 ans après, en compagnie de Daniel Thompson, au moment où sort un DVD, Blu-ray, Studio Canal, La Grande Vadrouille et toutes sortes de documentations, de bonus en sus. Mais vous nous expliquiez, c'est un road movie. Donc on en était à l'opéra, on sait que les héros s'en vont par les égouts et vont être jetés sur les routes, et d'abord en Bourgogne. Dans un premier temps, le scénario prévoyait de les expédier jusqu'en Espagne. Le scénario, c'est vous, avec Julien et votre père, Gérard Houry.
Absolument. Nous avions été envoyés par le producteur, donc Robert Dorfman, dans le sud de la France, et on a travaillé beaucoup pendant plusieurs semaines sur le scène à scène. C'était pas encore un scénario, c'était vraiment un scène à scène très complet. Et puis, à un moment donné, on lui a téléphoné en lui disant, voilà, enfin mon père lui a dit, tu peux venir, on va te raconter le film. Puis maintenant, voilà ce qui va se passer, voilà, etc., etc. Mon père était très fort dans ce genre d'exercice. Et il y avait une étape à Albi. Et puis à partir de Albi, il passait en effet dans la montagne. Et Robert nous a dit, voilà, c'est formidable, mais à partir d'Albi, on s'emmerde. Alors bon, on a été un petit peu déstabilisés. Cette histoire d'Albi est restée d'ailleurs un code dans jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs avec mon fils quand nous travaillons sur des scénarios.
Des scénarios.
On dit attention à Albi, attention à Albi, personne ne sait ce que ça veut dire, mais nous on sait. Et on est reparti au travail et on a donc, c'est à ce moment-là qu'a été inventée cette fameuse scène des planeurs.
Mais restant sur les routes, si vous voulez bien, Daniel Thompson, c'est photographié par Claude Renoir, un peu comme les meilleurs cadreurs du Tour de France.
Oui, c'était un grand chef opérateur, c'était un homme qui avait un immense talent, et ça fait partie, je crois d'ailleurs, du succès du film et puis de la longévité du succès du film, parce que ce film, il est magnifique. les décors, les costumes, les extérieurs, cette Bourgogne splendide, ces paysages. Et il avait envie de montrer ça aussi à travers ce film, entre guillemets, comique, mais pas seulement.
Enfin, vous n'avez assisté au tournage qu'en studio, la reconstitution de l'Hôtel du Globe. Vous n'avez pas été sur le tournage?
Non, j'étais à Paris. Le tournage se passait évidemment sur les routes et je voyais les rushs le soir.
Oui, vous avez manqué les trajets en voiture, les trajets à pied, les trajets à vélo, chers au chanteur Georgius pendant l'occupation.
Comme on ne trouve plus de carburant, j'ai vendu ma bagnole 300 francs et blanc. Je me suis payé un vélo hors concours qui part le matin au quart de tour. Cet amour, j'ai diminué de 100% mes frais. Je n'use que de l'essence de jarret, c'est vrai. Mais j'en ai vu d'autres et des types de choix pédaler devant moi.
Poussez-moi! Non, non, la selle!
N'oubliez pas de freiner, sans ça vous risquez de redescendre. Qu'est-ce qui se passe? Vous en faites un boucan?
J'ai ma chaîne qui a sauté, pas!
Oh, donnez-moi ça, je vais vous réparer ça. Ah, vous êtes empoté, hein!
Ah, dites donc, pour aller plus vite, vous allez garder le mien qui marche pas, et moi je vais prendre le vôtre, hein? Alors, allez.
Mais dites donc. Ça fait deux fois que vous faites ça.
Oui.
Vous m'avez déjà pris mes chaussures, maintenant mon vélo.
Eh ben alors, c'est normal, non?
Excusez-moi. Au fond, pourquoi c'est normal?
Mais c'est normal parce que...
Oui, parce que je suis un manuel, sans doute.
Eh ben parfaitement, voilà.
Ah, très bien.
Alors, il y a un rapport de classe sans lutte des classes. Vous posiez pas la question comme ça, encore qu'après les études à Columbia University.
Non, c'est aussi une des grandes... raison, je pense, du succès du film, c'est qu'en effet, il y a cette opposition entre, l'homme du peuple, c'est-à-dire voilà, le manuel, c'est la prétention d'un artiste, probablement un peu un intello, un homme dans la vie de Paris. Et ça, ce sont des ressorts qui fonctionnent. Très bien et qui accompagne les deux personnages. Et puis aussi, ces deux personnages, ils sont très très attachants parce que, en général, les films de guerre, y a des héros de guerre. Ce ne sont pas des héros du tout. Ce sont des gens comme la plupart des Français à l'époque qui subissaient l'occupation et qui, sans rentrer dans la collaboration, étaient des gens qui n'étaient pas au départ destiné à un grand destin.
Et oui, parce que Jacques Chancel a titré un papier dans Paris Jour, Bourvil et Funès, héros de la résistance, avec un R majuscule, héros malgré eux.
Mais c'est ça qui est merveilleux, c'est que ce sont des héros malgré eux. Parce que on n'est pas fait les uns ou les autres pour devenir des héros. Et la plupart des gens, Dieu merci, il y a eu en effet des grands résistants et des gens qui ont été d'un courage extraordinaire. Mais la majorité de la population a été comme Bourvil et de Funès. On essayait de survivre, de continuer à travailler, pour la plupart des gens, de ne pas collaborer avec les Allemands, mais en même temps de vivre et de survivre. Et c'est ces gens-là qu'on a retrouvés 20 ans plus tard, et avec cette espèce de fierté de constater qu'après tout, les circonstances font que tout à coup on s'aperçoit qu'on est capable de faire des choses extraordinaires.
C'est aussi ce que voulait entendre Daniel Thompson, la France de l'époque 66, de la France de l'époque 41-42. Aujourd'hui, les leçons seraient peut-être différemment tirées. Est-ce que vous seriez capable, thèse à Columbia University, de situer la Grande Vadrouille dans la longue chaîne des films consacrés à la guerre? Rétrospectivement, vous avez dû essayer de le faire.
Même déjà à l'époque, on avait quand même vu, bien sûr, Le Dictateur. On avait aussi, bien sûr, vu To Be or Not To Be de Lubitsch, qui est un des grands exemples d'un film qui avait été conçu avant qu'on sache ce qui se passait, bien sûr, ce qui s'était passé dans les camps. Mais nous, on savait tout ça quand même. Donc, ça a été évité, ça n'était pas... pas le propos du film. Mais il y avait aussi, je crois, tout à fait avant ou juste après, je ne sais plus, le merveilleux film de Rapneau, La vie de château, Donc on commençait quand même un petit peu à rentrer dans une forme de légèreté par rapport à cette époque. Mais la plupart des grands films de guerre, que ce soit Le Soldat Ryan ou que ce soit Stalag 17, enfin je saute dans des tas d'époques différentes, c'était surtout bien sûr des films très très dramatiques, parce que c'est aussi ça qui est passionnant.
Il n'y a pas un mort chez vous aussi?
Non, il n'y a pas un mort, parce que même, et on a vraiment aussi alors pensé à ça, parce que justement, je pense que mon père était très... Il pensait aux enfants, il pensait surtout à ce ton de comédie et de film comique, parce que même l'avion qui est abattu à la fin, justement, au moment des planeurs, eh bien, il y a un petit parachute. Et on voit que le pilote de l'avion, il a probablement sauvé sa peau.
Alors, pas de mort, pas de Vichy, pas de collaboration, mais des planeurs. Alors, les planeurs, racontez-nous, ça a pris combien de temps?
3 semaines.
Parce qu'ils doivent partir depuis le terrain d'aviation de Mende.
Absolument.
En Lozère.
Oui, c'est une mise en scène très très difficile, avec une multitude de plans pour que ce montage puisse donner l'illusion que ces fameux planeurs vont s'envoler. Parce que c'est un petit peu tiré par les cheveux, si j'ose dire, que cette voiture soit accrochée aux planeurs et arrive à les faire décoller. Mais c'est une séquence extrêmement difficile à régler, à tourner. Enfin, tout a été, ça prend un temps fou.
Planeur.
J'étais sûr qu'ils étaient encore là.
Il n'y a pas d'hélice, hélas.
C'est là qu'est l'os.
J'espère qu'il est bien accroché.
Ok, get in. Hein? Qu'est-ce qu'il dit?
Ben, il dit get in. Montez.
Ah bon?
Et hop.
Ah non, parce que je ne peux pas, moi.
Vous avez la trouille, hein?
Non, j'ai pas la trouille. Oh. C'est fait pour deux, puis on est trois.
Ça va être mon baptême de l'air. Je suis jamais monté dans un avion.
Doucement, on est...
Je suis dans le vide. Permettez, sister.
Hey, me too.
La grande vadrouille, 50 ans après, avec Daniel Thompson, un DVD Blu-ray chez Studio Canal, après 17 millions de spectateurs dans le vaste monde. Mais votre père disait, Gérard Houry n'avait pas voulu refaire le cornion, on passe pas deux fois par la même étape. Et qu'est-ce qu'on apprend? Rabbi Jacob, vous préparez avec Jules, le scénariste qu'on connaît bien, un Rabbi Jacob 2.
Alors, c'est pas un Rabbi Jacob 2. Ah. Ça s'appellera Rabbi Jacqueline, qui d'ailleurs m'amuse parce que Jacqueline, c'est le prénom de ma mère. Mais c'est une histoire qui se passera aujourd'hui et qui pose des problèmes de notre société d'aujourd'hui, qui a beaucoup changé depuis 40 ans, donc puisque là ça fait pas 50 ans mais 40 ans, et où on s'est dit que sont devenus les enfants et les petits-enfants de ces personnages. On va essayer de réussir ça, maintenant c'est un pari évidemment énorme, et il y a un travail fou devant nous. Ce que sont devenus d'autres problèmes, pas là exactement, bien sûr, et même surtout très éloignés de ce qu'était Rabbi Jacob, qui était quand même complètement axé sur l'antisémitisme. On peut exploser tout ça et
exploser la mosaïque.
Voilà, on est en pleine mosaïque.
Et je pense que vous pourrez tourner à Saint-Denis, comme Rabbi Jacob l'avait été en partie dans le vieux centre qui n'existe plus. Merci à vous, Daniel Thompson. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Martin Cellier, à la réalisation Valérie Aestaraï, à la technique Florent Beauvalet.
Merci Jean Lebrun, on vous retrouve lundi 12 décembre à 13h30 pour l'émission et ainsi qu'à 20h au Théâtre du Vieux Colombier pour l'enregistrement en public de deux grands débats.